Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Marguerite Caton, mais aussi Mélanie Chalandon, Maïder Gérard, Corentin Mansois, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Alexandre Dang. Deuxième temps de notre série consacrée au tourisme à l'heure des grandes masses et de la démesure. Hier, nous parlions de l'attraction des espaces polaires. Aujourd'hui, place à la mer et au développement exponentiel des croisières. Paquebot, la course au gigantisme, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Oh, it's next like that. Oh,
regardez-moi ça.
Wow.
Et ce lit, comme il a l'air bien. C'est superbe. Vous savez, on a réservé depuis plus d'un an.
Le coût total de la croisière, ça nous fait à peu près 4 000 euros.
Ça vaut la peine.
C'est reparti pour l'année prochaine ?
Oh oui.
Oh, il y a tout. Non mais c'est vrai, il y a tout. Tout et n'importe quoi en fait. Toutes les envies qui nous passent par la tête, on peut les avoir ici. Il n'y a pas de problème. It floats
back to you. The room is amazing. Le salon est incroyable. Et la bibliothèque, on n'a même pas à aller à celle du bateau. On a tout ici. C'est vraiment très beau.
Regardez comme on est haut. C'est incroyable.
Des paquebots de plus en plus grands qui accueillent jusqu'à 6000 passagers pour les derniers modèles. Des paquebots de plus en plus nombreux aussi pour sillonner les océans, de plus en plus connectés. L'univers de la croisière est bien loin de se réduire à une clientèle aisée, autant qu'âgée, se prélassant sur de luxueux navires. Et c'est toute l'Asie et notamment la Chine qui s'est engouffrée aussi dans ce secteur. Aujourd'hui, le marché est en pleine expansion, dominé par quelques grandes compagnies qui, depuis 10 ans, ont largement renouvelé le modèle. Il ne s'agit plus tant de voyager que de s'amuser, de visiter, que de se divertir. Le navire est devenu un véritable parc de loisirs flottants et bientôt les touristes ne descendront même plus à terre. Alors spéculons un peu, la croisière maritime est-elle promise à un avenir aussi riant que le ventent les constructeurs et les compagnies? Les enjeux environnementaux ne vont-ils pas mettre à mal ces stratégies de développement? Les classes moyennes chinoises aussi vont-elles renouveler le modèle? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité une géographe, Véronique Mandou, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, vous êtes maître de conférence à l'Université d'Angers. On va d'abord commencer, Véronique Mandou, si vous le voulez bien, avec les questions environnementales. Parce qu'il y a quelques semaines, il y a une ONG qui s'appelle Transport et Environnement qui publie un rapport révélant des chiffres sur l'impact environnemental de l'industrie de la croisière. Le leader mondial de la croisière, on fera tout à l'heure un petit panorama pour bien comprendre ce marché et les acteurs de ce marché, mais le leader, c'est Carnival. Il aurait émis à lui tout seul 10 fois plus de dioxyde de soufre autour des côtes européennes que l'ensemble des 260 millions de véhicules qu'on trouve en Europe. Et quand on regarde pour ce qui est du numéro 2, Royal Caribbean, il en rejetterait lui 4 fois plus. J'ai été effaré par ces chiffres, Véronique Mandou. Est-ce qu'ils sont vrais, possibles? Et parce que le cas échéant, c'est le modèle même de la croisière qui est remise en compte, compte tenu évidemment des efforts qu'il va falloir faire pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre.
Alors effectivement...
C'est plausible ces chiffres?
Alors c'est oui, ils sont très certainement plausibles, notamment parce qu'aujourd'hui on a une augmentation du nombre de bateaux. Et puis par ailleurs, la caractéristique de ces bateaux, c'est pour l'instant d'utiliser du fuel lourd avec des émissions polluantes qui sont effectivement beaucoup plus élevées et des seuils qui sont aussi acceptés, qui sont plus élevés que pour l'automobile par exemple.
Et est-ce que justement cette activité est bien encadrée s'agissant de l'impact environnemental? Parce que pareil, en préparant cette émission, j'ai vu qu'il y a quelques années, c'était en 2016, Carnival, donc toujours ce leader de l'industrie de la croisière, a été condamné pour 40 millions d'euros après avoir été reconnu coupable d'avoir déversé des déchets d'hydrocarbures dans la mer. Puis plus récemment, il a reconnu avoir jeté des eaux usées dans des zones interdites du côté des Bahamas, mais aussi du côté de l'Alaska. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de régulation pour gérer cette pollution générée par ces paquebots?
Alors, il y a une régulation. Après, c'est la question du contrôle, effectivement, qui aujourd'hui sont en train de se multiplier, à la fois aux États-Unis avec l'exemple que vous avez donné, et puis en Europe aussi, où récemment, à Marseille, il y a quelques mois, un bateau a été aussi reconnu comme avoir une pollution plus importante que ce qui est admis.
Il y a un cadre international, justement, pour ce type de pollution?
Oui, alors enfin, il y a un cadre international et après une application qui n'est pas toujours la même, hein, selon les zones géographiques.
C'est-à-dire ?
Alors par exemple, aujourd'hui en Europe, on a une différence entre la zone méditerranéenne, où on peut avoir des émissions qui peuvent être supérieures à la mer Baltique, par exemple la mer du Nord, notamment pour les émissions de soufre. Mmh. Et l'objectif, c'est d'arriver à avoir une homogénéisation de ces valeurs.
Et on est sur la voie de cette homogénéisation ou pas tellement ?
Oui, alors bien sûr, c'est à la fois les gouvernements évidemment qui s'emparent de cette question, c'est aussi le public qui aujourd'hui est de plus en plus sensible à ces questions, et puis les compagnies de croisière qui sont elles aussi obligées de faire des efforts, parce que bien évidemment, si elles n'arrivent pas à respecter l'environnement et notamment la mer, c'est leur modèle même qui va être mis en question.
Et les efforts, elles les font ?
Alors oui, cela commence effectivement. On peut notamment citer la construction aujourd'hui de bateaux qui n'utilisent plus de fuel, mais qui peuvent avoir l'utilisation du GNL, du gaz naturel, qui permet d'avoir beaucoup moins d'émissions, notamment de particules fines ou de soufre. Alors aujourd'hui, ça reste encore limité. On a seulement quelques unités qui sont construites avec et qui utilisent du GNL. Aujourd'hui, on en a 6 seulement sur 66 bateaux qui sont en cours de construction.
En cours de construction seulement. Donc ça va mettre énormément de temps.
Tout à fait.
Donc ça veut dire qu'on peut peut-être miser sur les progrès techniques, mais que c'est à très longue échéance en réalité.
Oui, alors il y a aussi des pays qui s'engagent dans cette voie, principalement à la Norvège, qui aujourd'hui a comme objectif de ne plus avoir d'émissions polluantes. Ce qui oblige les compagnies, notamment les compagnies norvégiennes, à revoir le type de propulsion de leurs bateaux.
Et est-ce qu'ils revoient aussi le modèle même de bateau ? On a intitulé cette émission Paquebot, la course au gigantisme. C'était en mars 2018, il y a le Symphony of the Seas, qui appartient d'ailleurs à la Royal Caribbean, qui quittait le chantier naval de Saint-Nazaire. C'est un navire qui mesure 362 mètres de long, c'est le plus grand du monde, il peut accueillir jusqu'à 8000 passagers. Avant lui, c'était le Allure of the Sea, 361 mètres, juste un mètre de moins. Encore avant, il était rentré en service en 2010. Encore avant, c'était le Oasis of the Sea, 360 mètres. Donc on voit qu'on est en train de grappiller mètre par mètre. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Pourquoi cette course au gigantisme ? Après tout, les compagnies pourraient se contenter de construire de nouveaux bateaux sans forcément avoir des bateaux de plus en plus grands.
Alors
est-ce qu'il n'y a pas, dans le modèle même, une limite ?
Il y a deux avantages en fait pour les compagnies de croisière. Le premier, c'est de proposer aujourd'hui des équipements ludiques, principalement que l'on ne trouvait pas sur les précédents bateaux. Lorsque la croisière est née, c'était des bateaux qui étaient d'abord utilisés pour le transport de personnes. Aujourd'hui, on construit des bateaux spécifiquement pour la croisière, avec un objectif qui est effectivement de divertir les croisiéristes à bord du bateau. Et le fait d'avoir des très grands bateaux, ça permet d'avoir des équipements démesurés, comme des parcs aquatiques, des tyroliennes, des murs d'escalade, etc. Et puis, il y a un avantage aussi.
Des pistes de cartes aussi, j'ai vu, il y a des choses absolument invraisemblables.
Oui, des choses qui sont assez folles, simulateurs de chute libre aussi, par exemple. Et puis l'autre objectif, c'est un objectif économique, parce que ça permet de faire des économies d'échelle. Rapporté au nombre de passagers, ça permet d'avoir de nombreuses économies, notamment sur le personnel qui est à bord des bateaux.
Et alors jusqu'où ça va continuer ? On va avoir des paquebots d'ici 20 ans de 400 mètres, de 450 mètres enfin...
Alors pour l'instant, les bateaux semblent avoir atteint leur taille maximale. Sur les 10 prochaines années, on n'aura pas de bateaux qui feront plus de 6 000, 6 500 passagers.
Alors on va revenir peut-être un peu au début de tout cela, de l'industrie de la croisière. Je vous propose d'écouter d'abord une archive, on est en 1962 et on est évidemment dans le France.
3 février 1962, France a quitté le Havre pour sa première traversée vers New York. Gagnant la haute mer, le navire long de 316 mètres et déplaçant 56 000 tonnes atteint rapidement sa vitesse de croisière. Dans le grand salon, des sièges confortables, un bar et une véranda permettent à chacun de goûter les plaisirs qu'il préfère. Et pendant que ce couple américain se détend dans le calme de sa cabine climatisée, les enfants qui ont aussi leurs locaux personnels suivent passionnément les aventures de Guignol en mer. Dans le salon de lecture des premières classes, œuvre d'un grand décorateur parisien, 3000 volumes sont offerts aux amateurs de livres.
Voilà, on est en février 1962, c'est la première traversée transatlantique du paquebot France. Vous avez publié un article, Véronique Mondou, intitulé « Lorsque le transport devient du tourisme », dans lequel vous revenez justement sur les débuts de l'industrie du tourisme de croisière. Vous nous expliquez quand, où, comment cette industrie de la croisière va émerger, dans quel contexte naît ce type de tourisme-là ?
Alors l'exemple que vous venez de passer est très intéressant puisqu'il s'agit du France, donc lancé en 1962, à une période où le bateau est encore utilisé donc pour le transport de passagers, hein, donc transport intercontinental. Et pendant cette période, on va avoir des avancées technologiques très importantes de l'aviation, avec des avions qui vont avoir une capacité plus grande, qui vont être beaucoup plus rapides, et ça va mettre fin à l'industrie du transport maritime. Et on a donc des bateaux qui ne vont plus avoir d'affectation pour le transport, et on va les réutiliser à des fins de tourisme.
Ouais, en fait, c'est du recyclage.
Oui, au départ, c'est ça. Alors, il y avait des formes qui préexistaient déjà de croisières, mais le développement, c'est effectivement les années 1960.
Donc en fait, c'est l'offre qui va créer ce marché,
oui,
moins
c'est
que
toujours,
la demande.
Oui, tout à fait. C'est toujours le cas aujourd'hui. Effectivement, il y a un pari qui est fait par les compagnies de croisière qui mettent en circulation de nouveaux bateaux, une nouvelle offre, en faisant le pari que la demande va suivre.
Alors regardons justement comment se structure ce marché. On a deux compagnies américaines qui dominent la région, en tout cas la région Caraïbe, qui est vraiment le bassin peut-être le plus important. Carnival, donc je l'évoquais tout à l'heure, le numéro un mondial de la croisière, qui possède notamment le leader européen Costa Croisière. Et puis on en a un autre qui s'appelle Royal Caribbean. Et puis un troisième acteur qui est toujours américain, et essentiellement sur l'Asie-Pacifique, qui est Star Cruise. Et ces trois géants-là, ils se partagent à peu près 85% du marché, les autres récupérant les miettes, les restes du marché. Pourquoi les États-Unis écrasent le marché toujours aujourd'hui à ce point? Et comment se fait-il que ce marché soit aussi concentré? Comment ça s'explique historiquement, Véronique Mondeau?
Alors, historiquement, les premières compagnies de croisière, effectivement, étaient américaines. Et la clientèle, première clientèle, c'était aussi les Nord-Américains, principalement aux États-Unis, qui ont été attirés par cette forme de tourisme qui répond assez bien, en fait, à leur demande, notamment un nombre de jours de congés qui est faible, avec beaucoup de Nord-Américains qui ne prennent pas la totalité de ces jours de congés. Et le bateau, par sa simplicité, il suffit de monter à bord du bateau et ensuite on va passer quelques jours en mer avec la possibilité de faire des escales, répond parfaitement à cette demande de divertissement, de coupure avec le monde du travail.
D'accord. Donc c'est aussi, les Américains dominent ce marché, c'est parce qu'en réalité, les clients sont assez largement des Américains, en réalité. Du côté de l'Europe, quand on regarde les choses, visiblement, nous, Français, sommes pas tellement enclins, justement, à faire des croisières. Quand on regarde le classement au niveau de l'Europe, on est seulement quatrième derrière les Allemands, derrière les Britanniques, derrière les Italiens. Pourquoi est-ce qu'on n'aime pas la croisière? Vous qui êtes une spécialiste du tourisme.
Alors c'est une vaste question. Effectivement, on a déjà eu la croissance des Européens. Aujourd'hui, c'est 30% de la clientèle qui est européenne, avec deux nationalités que vous avez citées, hein, les Britanniques, les Allemands, qui sont les principaux croisiéristes aujourd'hui. Et puis effectivement, le marché français qui est assez spécifique, avec une clientèle qui n'apprécie pas forcément certaines caractéristiques de la croisière.
Lesquelles?
Alors aujourd'hui, les Français restent très attachés au fait de faire des escales, avoir une dimension culturelle dans les croisières. Or aujourd'hui, la tendance est plutôt à avoir de l'amusement à bord des bateaux. Et puis le bateau est un lieu multiculturel où se croisent de nombreuses nationalités. Et une partie de la clientèle française souhaite un environnement francophone en matière de langue, par exemple, de nourriture aussi, de divertissement. D'où une offre spécifique qui est parfois mise en place par les compagnies de croisière où ils vont proposer un produit francophone.
Mmh. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve en dehors d'ailleurs de la croisière, ce besoin de se retrouver dans un environnement francophone.
Oui, alors c'est pas spécifique effectivement à la croisière. Oui.
Alors, continuons un petit peu ce paysage de la croisière. On a un quatrième groupe qui lui est chinois. Alors, je sais pas comment, Genting Hong Kong, qui possède notamment Star Cruise, Dream Cruise, Crystal Cruise. Est-ce qu'il faut s'attendre, Véronique Mondou, à ce que, à l'avenir, eh bien, les Chinois rivalisent avec ce trio américain?
Alors,
vaste question à prendre pour détailler.
Pour l'instant, ce n'est pas le cas parce que ce sont les compagnies nord-américaines qui dominent, les deux groupes que vous avez cités, Carnival et Royal Caribbean. Par contre, effectivement, on voit progressivement des groupes chinois qui se positionnent, à la fois donc compagnies de croisière, même si ça reste encore assez timide. Et puis, sur un autre aspect aussi, ce sont les chantiers navals en Chine qui commencent à avoir des compétences pour la construction aussi de bateaux de croisière.
Alors, revenons peut-être sur l'émergence de ce marché de la croisière du côté de la Chine. Les premiers départs de croisière vont raconter ça dans vos articles, remonte au milieu des années 2000. Et en quasiment 10 ans, on va avoir un marché qui va atteindre quasiment 1 million de croisiéristes, ce qui est quand même pas mal. Comment expliquer une croissance aussi rapide? Et qu'ont fait les autorités précisément pour accompagner le développement de cette industrie?
Alors, ce qui est particulièrement intéressant dans le cas de la Chine, c'est qu'il a fallu une décision gouvernementale pour que les compagnies étrangères aient le droit, en fait, de venir en Chine. Avant 2006, ce n'était pas possible. Et à partir de 2006, le gouvernement a autoriser les compagnies à venir en Chine. Il y a eu un relais aussi qui a été pris par les provinces avec la construction d'infrastructures portuaires. Et puis, il y avait un intérêt très fort de la part des compagnies américaines. Aujourd'hui, on a une très forte augmentation de la capacité, de plus en plus de bateaux et des bateaux qui sont de plus en plus gros, ce qui signifie que les compagnies ont l'obligation de trouver à la fois de nouveaux bassins de navigation et puis d'avoir aussi de nouvelles clientèles. Et évidemment, la Chine, par ses caractéristiques socio-démographiques et économiques, est un marché particulièrement intéressant pour ces compagnies.
Mais attendez, ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, il faut comprendre que l'émergence de ce marché-là en Chine s'est faite par le truchement d'acteurs non chinois, en l'occurrence américains. Il n'y a pas eu ce désir du côté des autorités de Pékin de développer ce marché avec des acteurs chinois, en tout cas dans un premier temps.
Oui, alors ce sont des compagnies américaines effectivement, mais qui travaillent en partenariat avec des entreprises chinoises, ce qui est toujours une obligation, notamment pour installer les bureaux des compagnies en Chine. Elles sont en co-entreprise avec des entreprises chinoises. Mais effectivement, on peut dire qu'il y a un savoir-faire des compagnies américaines qui n'est pas égalé pour l'instant par les compagnies chinoises.
Et l'objectif, c'est quoi? C'est justement d'accompagner ces acteurs chinois pour qu'ils soient en mesure à l'avenir de rivaliser avec les plus grandes entreprises américaines? Ou est-ce que finalement on laisse ce marché pour le moment aux Américains? Il y a quand même assez peu de secteurs industriels dans lesquels les Chinois ne cherchent pas à rivaliser avec les Américains. On se dit qu'a priori, ils le font aussi dans ce marché-là.
Oui, alors c'est difficile de savoir quelles sont les volontés exactes du gouvernement chinois. Mais effectivement, aujourd'hui, on passe beaucoup par des systèmes de co-entreprise. On se rend compte tout de même que les compagnies américaines restent leaders parce que la clientèle chinoise apprécie particulièrement les bateaux les plus beaux, les bateaux neufs, les plus grands. Et donc, ils vont être attirés par ces nouvelles unités. Et très peu par les compagnies chinoises qui, elles, possèdent plutôt des bateaux un peu plus anciens.
Parlons de ces clients chinois, justement, Véronique Mondou. Pourquoi les Chinois partent en croisière? Qu'est-ce qu'ils y cherchent?
Alors, il y a très certainement un phénomène qui est à noter, c'est la notion d'expérience. Parce que la croisière, quelque chose qui est récent, un peu plus de 10 ans. Et donc, le fait de faire une croisière, ça permet d'avoir cette expérience à bord d'un bateau. L'expérience aussi du monde occidental, des États-Unis, parce que les compagnies sont des compagnies européennes ou des compagnies américaines. Et donc, c'est la possibilité de voyager, d'une certaine façon, dans un milieu occidental, sans avoir à aller aux États-Unis ou en Europe.
Donc, la croisière est clairement associée à une activité d'occidental.
Oui, même si aujourd'hui...
Et c'est ce qu'on cherche.
Oui, c'est ce qui est recherché, parce que voyager en Chine, ce n'est pas quelque chose qui est toujours simple. Avoir l'autorisation de sortir du pays est quelque chose qui reste encore compliqué pour un grand nombre de Chinois. Et là, c'est la possibilité aussi d'aller à l'étranger. Les compagnies vont notamment au Japon ou bien en Asie du Sud-Est. Et c'est l'occasion aussi pour ces croisiéristes chinois de sortir de Chine.
Et est-ce qu'on, justement, on suit précisément ces codes occidentaux, les codes culturels occidentaux, ou est-ce qu'on note quand même des différences? Finalement, si on regarde les choses, est-ce que le modèle de croisière qu'on va retrouver dans les Caraïbes, où c'est très essentiellement des Américains qui y sont, ou dans la Méditerranée, ou précisément dans du côté des côtes chinoises, on a des modèles de croisière différents, ou c'est à peu près toujours la même chose?
Alors, les modèles sont différents. En fait, la base, globalement, reste identique. Et on peut citer aussi le groupe Costa, qui vient de mettre en circulation un bateau en Chine qui s'appelle le Costa Venezia, et qui est une réplique de Venise avec des gondoles, avec la place Saint-Marc. Donc, c'est l'exportation de l'Italie vers la Chine. Et puis, il y a une appropriation aussi de la part des clientèles chinoises qui va être différente par rapport aux clientèles américaines. Il y a certaines activités qui vont être plébiscitées, et puis d'autres, qui au contraire vont être peu faites par la clientèle chinoise.
Que font les Chinois à bord?
Alors,
c'est quoi les grandes activités de prédilection de ces croisiéristes chinois?
Première chose, c'est qu'aujourd'hui, les compagnies proposent des ambiances très animées, avec beaucoup de jeux, de musique qui vont être proposées. Et ça, c'est quelque chose qui va plaire à la clientèle chinoise, qui apprécie d'avoir une ambiance... une ambiance qui va aller vers le divertissement. Donc tout ce qui va être lié aux jeux.
Quand vous dites les jeux, notamment les jeux d'argent, non?
Oui, alors bien sûr, les jeux d'argent c'est important. En Chine continentale, les casinos sont interdits. Donc lorsque les bateaux sont dans les eaux internationales, ils peuvent ouvrir les casinos. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est important. Mais ça va être toutes sortes de jeux aussi, des jeux en famille, avec des animateurs. Et ça, c'est quelque chose qui est particulièrement apprécié par la clientèle chinoise.
Et qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils mettent le pied à terre? Est-ce que, comme les Français, ils sont aussi un peu à la recherche proche de d'une certaine forme de proximité avec peut-être des cultures différentes de la leur, ou est-ce que finalement c'est pas franchement leur préoccupation?
Alors les escales qui sont proposées aujourd'hui sont assez peu diversifiées, c'est-à-dire que ce sont principalement des escales vers le Japon. Aujourd'hui, la Corée du Sud n'est plus desservie par les compagnies de croisière parce qu'il y a une interdiction de la part du gouvernement central de le faire. Donc on a peu de choix de destination. Et puis une activité qui va être plébiscitée aussi, c'est notamment de faire du shopping, que ce soit pendant les escales ou à bord du bateau.
Et ils en font où du shopping ?
Alors notamment au Japon et puis à bord du bateau. Aujourd'hui, le modèle de la croisière repose sur l'achat, bien sûr, des croisières, mais aussi sur l'ensemble des dépenses qui vont être faites à bord.
Est-ce que vous pensez que les croisiéristes chinois ont les moyens d'aller concurrencer les historiques états-uniens sur leurs terres, et notamment dans les Caraïbes ?
C'est l'objectif du gouvernement chinois de devenir le premier pays en matière de croisière. Donc on a effectivement une croissance qui est très forte depuis 2006. On est passé à 1 million de touristes en 2015. L'année dernière, c'était 2,2 millions de touristes. Par contre, on voit qu'il y a quand même un léger ralentissement du nombre de croisiéristes chinois aujourd'hui. Donc le marché qui était extrêmement prometteur pour les compagnies de croisière semble aujourd'hui se ralentir.
Atteint déjà un seuil ? C'est rapide. Alors, après tout, 1 million de croisiéristes, c'est quand même pas énorme quand on parle de la Chine.
Alors c'était 2015, l'année dernière c'est déjà 2,2 millions.
Ah c'est déjà
ça,
beaucoup
ça
plus,
progresse
d'accord.
Très très
ça
vite.
Ça progresse quand même pas mal.
Mais effectivement il y a aujourd'hui un léger ralentissement et on le voit
et
notamment.
Donc il faut aller chercher des marchés ailleurs, à l'étranger.
Oui, ou l'autre solution c'est toujours de rester sur la Chine et d'aller vers ce qu'on appelle les primo-croisiéristes. Et c'est là aussi une nuance entre la Chine et les autres nationalités, c'est que l'industrie de la croisière repose énormément sur des personnes qui font très régulièrement des croisières. Les Américains peuvent faire une croisière tous les ans, c'est quelque chose de relativement fréquent. Ce que l'on semble voir pour la Chine, c'est que les personnes vont faire l'expérience de la croisière, et puis une fois qu'elle est faite, vont peut-être se tourner vers d'autres activités. Donc ça veut dire qu'il reste encore une masse de population très importante pour ces primo-croisiéristes, mais on n'a peut-être pas les mêmes mécanismes qui se mettent en place, alors c'est un peu tôt encore pour le dire, mais on n'a pas ce taux de répétition qui va être très fort sur d'autres nationalités.
Et la stratégie chinoise pour aller prendre des parts de marché dans les autres espaces, et notamment du côté des Caraïbes ou même en Europe, c'est quoi ? C'est avoir sa propre compagnie et puis proposer une nouvelle offre ? C'est racheter des compagnies peut-être déjà existantes pour justement intégrer le marché ? Il y a une stratégie ?
Non. Ouais. Aujourd'hui, les compagnies chinoises restent en Chine, très majoritairement, en Asie en tous les cas.
Et sur les paquebots, parce que évidemment l'essor du croisiérisme chinois, c'est une très bonne nouvelle pour la France, puisqu'il y a des paquebots qui sont commandés, notamment au chantier naval de Saint-Nazaire, évidemment. Mais est-ce qu'on peut imaginer que, à l'avenir, les Chinois se débrouillent tout seuls et construisent leurs propres navires ? Est-ce que c'est une, j'allais dire une crainte, parce qu'évidemment pour nous, ça représente aussi des emplois.
Oui, alors c'est une hypothèse effectivement que l'on peut faire. Aujourd'hui, il y a un groupe italien qui collabore avec un groupe chinois et l'objectif, c'est de construire des bateaux de croisière en Chine. Ce sont des bateaux qui sont complexes à faire, mais effectivement un savoir-faire qui est en train d'être acquis par les chantiers navals de Chine.
On parle avec vous, Véronique Mondou, de ces paquebots, de ces croisières, la course au gigantisme dans cette série consacrée au tourisme, l'heure de la démesure. On va regarder peut-être dans un instant les retombées justement pour les territoires concernés et notamment les territoires caribéen.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Et on va regarder par exemple du côté de la Compagnie Royale Caribéenne qui a inauguré il y a quelques jours son île privée. On est en plein milieu des Bahamas, Coco Cay.
We started the engineering of Thrill Water Park really thinking about the guest experience, knowing that we wanted the family competition aspect, knowing we wanted the thrill of big drops, lots of water splashing. The beautiful views around the island. And then we worked with our engineers to make sure that that experience really came to life.
Voilà, le clip promotionnel donc pour Coco Cay, c'est en fait un immense parc d'attractions avec des bars, des piscines géantes, des toboggans, des tyroliennes réservées aux croisiéristes qui viennent y passer quelques heures. On va retrouver depuis la Martinique Olivier de Hourne. Bonjour.
Bonjour,
merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes géographe, maître de conférence à l'Université des Antilles et chercheur à l'Université de Laval. Que vous inspire cette île privée pour les croisiéristes Coco Cay qui vient d'ouvrir ? Est-ce qu'il faut y voir le signe que, en réalité, l'économie des croisières profite assez peu aux populations locales et que, en tout cas, c'est absolument pas la priorité des compagnies de croisières ?
Oui, tout à fait. En fait, cette île, c'est selon les recensements qu'on a, c'est la sixième à peu près île privée. C'est-à-dire que chaque compagnie maintenant investit en fait dans sa propre île, principalement du côté des Bahamas. On avait également le même processus du côté de l'Abadie en Haïti. En fait, c'est-à-dire on achète des îles ou des presqu'îles en fait qui sont réservées exclusivement aux croisiéristes en fait, et donc la clientèle de ces compagnies. C'est une tendance qui se généralise. Ça correspond tout simplement au fait que la croisière, en fait, elle n'est pas faite pour le développement des territoires d'accueil, mais c'est tout simplement une industrie qui a besoin de générer ses propres bénéfices pour elle-même. Mmh. Donc les territoires d'accueil, c'est plutôt des cartes postales qui vont défiler un petit peu pour les croisiéristes et qui vont agrémenter leur voyage de quelques visites, en fait.
C'est une tendance qui est une très mauvaise nouvelle, Olivier Dehourne, pour les territoires caribéens.
Oui, ça c'est une tendance qui est inéluctable parce que l'essentiel des revenus des touristes en fait doivent être des croisiéristes doivent être dépensés sur les bateaux. Donc la part qui arrive pour les territoires d'accueil, elle est tout au plus, alors selon les destinations, c'est du 15-30 dollars par passager descendu dans la ville d'accueil en fait. Mais il n'y a pas d'effet d'entraînement sur l'économie des territoires d'accueil.
Dans les années 90, il y a quand même un certain nombre d'îles de la zone qui ont commencé à construire des quais pour accueillir ces grands paquebots. Par exemple à Saint-Martin, où il y a plusieurs navires qui peuvent accoster en même temps. Dans quelle mesure, on va regarder de façon générale et puis ensuite on va détailler, mais de façon générale, dans quelle mesure est-ce que la construction de ces ports de base a permis de développer les économies locales? Est-ce qu'on arrive un tout petit peu à mesurer les effets économiques en termes de revenus, en termes d'emplois créés? On a un tout petit peu une idée de tout ça, Olivier Dehourne?
Alors, il faut faire très attention aux chiffres parce que la plupart du temps, déjà sur les chiffres, en fait, on nous donne la totalité des passagers sur les bateaux qui sont cumulés sur une année sans se préoccuper de savoir si les passagers descendent réellement ou pas.
Oui.
Donc, on a, en fait, il y a beaucoup de propagande dans les chiffres qui sont utilisés. Par contre, oui, dans le domaine de la croisière, le premier point, c'est que la destination d'accueil, elle est obligée d'investir, donc c'est des financements publics. Il faut un port en eau profonde, les bateaux sont de plus en plus gros, il faut que les ports soient de plus en plus profonds, il faut des quais aussi pour l'accueil, et il faut pouvoir gérer toute la logistique autour des croisiéristes, donc il y a un coût pour les finances publiques en fait qui va être important, et le challenge c'est d'essayer d'en retirer quelque chose en contrepartie. Donc ça, il va y avoir des spécialisations selon les territoires, plus ou moins heureuses, qui permettront d'avoir des retombées économiques intéressantes.
Alors on va regarder cette spécialisation, mais si on fait une toute petite géographie de ces ports de base, où est-ce qu'ils se situent? Quelles sont les îles où se concentrent majoritairement ces croisiéristes? En tout cas, ceux qui descendent du navire.
Voilà, bah alors pour la Caraïbe, on n'a pas trop le choix. En fait, c'est la différence de l'Asie. On est sur une quarantaine de petits territoires insulaires avec des statuts différents. Ils sont tous en concurrence entre eux. Donc ils vont tous développer des investissements en matière de croisière, enfin à peu près tous, et ils vont essayer d'attirer les faveurs en fait des compagnies de croisière qui vont choisir en fonction des intérêts naturels, on va dire des ressources touristiques, mais aussi des stratégies, des offres mises en place par les différentes îles.
Alors qu'est-ce qu'on met dans la balance précisément? Comment on fait pour les attirer?
Voilà, alors si on est un territoire plus important, il faut savoir qu'en matière de logistique, il va falloir gérer tout simplement aussi des approvisionnements en eau. Approvisionnement en eau potable pour un navire, gestion des déchets, recyclage des déchets. Donc là, ça peut être un atout pour des îles qui ont des capacités plus importantes, telles que dans les Antilles françaises, où elles sont soutenues par des fonds structurels européens, par exemple. Donc ça peut être un atout, parce que les bateaux ont besoin de quelques points relais. On a des petites îles plates, sèches, où en fait il y a beaucoup de problèmes d'approvisionnement en eau, donc elles ne sont pas du tout en mesure d'apporter cette ressource en fait pour les bateaux.
Il y a cette question-là, mais il y en a une autre, évidemment, c'est la question fiscale. J'imagine que les compagnies négocient leur présence en demandant des taxes d'entrée relativement faibles, voire carrément inexistantes. J'imagine qu'il y a une concurrence fiscale entre les différentes îles.
Voilà, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, très peu d'endroits, en fait, il y a réellement une taxe par croisiériste en fait qui quitte le navire, enfin qui descend. Parce qu'en fait, il y a une concurrence et les croisiéristes en fait font leur marché. Donc ça se passe en Floride et chaque destination va proposer ses offres. Donc ça sera un petit peu au mieux disant avec le plus d'avantages possible en fait pour les croisiéristes.
Vous restez avec nous, Olivier Dehourne. Vous êtes avec nous en direct depuis la Martinique. Et d'ailleurs, on entend derrière vous des petits oiseaux qui chantent. La nature commence à se réveiller. On vous remercie de vous être levé très tôt pour répondre à nos questions. Je voudrais faire réagir Véronique Mandou sur ces retombées pour les territoires caribéens, sur aussi la concurrence, on le voit très clairement, entre les îles pour attirer les croisiéristes, même si ces retombées sont pas forcément celles qu'on espérait et que la dynamique n'est pas forcément dans le bon sens, puisque ce que cherchent les croisiéristes, c'est au fond de faire dépenser leur argent à ses clients, soit sur le navire, soit sur leur île privée. Et donc, on voit que les uns et les autres, eh bien, font construire leurs petites îles, parce que, en l'occurrence, Coco Cay, c'est ça, hein, c'est tout simplement, on a remis du sable au milieu de l'océan pour précisément faire descendre les croisiéristes et les inviter à aller boire des verres et prendre des toboggans et, au passage, leur prendre un peu plus d'argent. Donc, on voit que tout cela n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les populations locales.
Alors pour les populations locales, effectivement, ça c'est un sujet sur lequel on peut aussi débattre. D'un point de vue économique, il y a quand même une retombée pour les territoires, puisque les passagers qui débarquent vont pouvoir consommer sur place. Mais ce qu'il faut aussi noter dans les Caraïbes, c'est aujourd'hui de plus en plus de croisières où on va avoir une alternance entre journée en mer et escale. Donc on peut avoir des croisières de 7 jours par exemple, on va avoir seulement 3 escales par exemple, et le reste ce seront uniquement à des journées en mer qui vont être proposées. Donc là il n'y a plus de question de retomber pour les territoires puisqu'il n'y a plus d'escale de toute façon. Et on a même des croisières dans les Bahamas qui sont proposées sans aucune escale.
Alors justement ces escales, comment est-ce qu'on les organise? Parce qu'en général tout cela est déjà préétabli, on a des circuits, des excursions qui sont parfaitement définis à l'avance. D'ailleurs vous choisissez tout ça sur le navire, il n'est même pas question de descendre pour faire son choix, on le fait à l'avance. Comment est-ce qu'on organise tout ça? Est-ce que on a des propositions qui sont co-construites avec les autorités locales des sites en question, ou est-ce que les croisiéristes, les compagnies de croisière choisissent dans leur coin sans aucune concertation?
Alors c'est co-construit, puisque par exemple tout ce qui va être lié au système de transport, c'est fait avec les collectivités locales. Et puis ensuite, le travail se fait aussi avec des réceptifs qui vont proposer des prestations.
Vous confirmez, Olivier Dehourne, c'est vraiment une co-construction, ou est-ce que en réalité, quand on regarde les choses de près sur le terrain, la co-construction, elle est plutôt le fait des croisiéristes?
En fait, on a un marché qui est important. Il faut savoir qu'on est sur des territoires qui sont économiquement en crise. Il y a des taux de chômage qui sont élevés, il y a un sous-emploi important. Taux de chômage sous-élevé, ça veut dire 40% des jeunes de moins de 25 ans. On a au moins 20% de la population officiellement au chômage. Et le sous-emploi, en fait, est énorme. Donc, il y a des pressions économiques importantes. Donc, on n'est pas en mesure de négocier de manière très équilibrée, en fait. Et à partir de là, il va falloir donc séduire ces croisiéristes. Donc, il faut qu'on ait des offres d'accueil avec des produits, donc qui passent par ces agences réceptives qui sont proposées aux croisiéristes, et ils font leur marché en fait pour voir quelles sont les îles qui, sur le plan économique, vont être les plus lucratives en fait.
Et par ailleurs, l'environnement peut changer, et il peut changer de façon assez brutale, Olivier Dehourne. On va revenir quelques mois en arrière, septembre 2017, on a cet ouragan Irma qui balaye la Caraïbe, on a une île en particulier qui est touchée, c'est Saint-Martin. Saint-Martin, c'est un territoire où les croisiéristes s'arrêtent. Comment est-ce que cet ouragan Irma a transformé précisément les circuits des croisiéristes pour Saint-Martin?
Oui, en fait, ça s'est fait très naturellement, c'est-à-dire que les circuits ont été allongés, se sont reportés un petit peu plus au sud, au centre de l'Arcantillé, au sud, notamment là les Antilles françaises avec la Guadeloupe et la Martinique ont bénéficié de cet effet report, c'est-à-dire qu'il y a une géométrie variable en fait qui se redéployait très vite. Et à partir du moment où, comme cette année, en fait, le port de Philipsburg, donc du côté de Sint-Maarten, la partie néerlandaise, en fait, est opérationnelle, les compagnies, en fait, reprennent leur circuit habituel. En fait, c'est Saint-Martin, une spécialisation dans le commerce hors taxe, notamment dans le domaine du hi-fi, dans le domaine aussi de l'or. Donc, c'est une escale qui est assez appréciée, en fait, par les croisiéristes. Donc, elles y reviennent, en fait, très vite, ces compagnies.
Et alors maintenant, si on regarde, Olivier Dehourne, les Antilles françaises, vous êtes en ce moment même du côté de la Martinique, la Guadeloupe, les atouts, les faiblesses de ces territoires pour attirer, justement, les compagnies croisières?
En fait, les faiblesses, on est dans des îles qui sont trop développées, trop urbanisées, trop peuplées, en fait. La croisière, elle aime bien, comme vous l'avez cité, c'est les petites îles privées, donc qui appartiennent aux compagnies directement, où là, on met journée à bord pour à terre pour tout le monde. Et dans ces îles, en fait, on a des problèmes d'embouteillage, beaucoup de circulation. Donc finalement, l'excursion, elle est moins confortable. Mmh. Sur une petite île, on maîtrise bien les flux. Donc pour la Martinique, la Guadeloupe, en dépit des chiffres qui sont annoncés, on totalise tous les croisiéristes par bateau. Mais dans les faits, les quelques enquêtes là qu'on a terminé de mener, on voit que moins d'un tiers des croisiéristes descendent du bateau lorsqu'ils sont dans ces, notamment lorsqu'ils arrivent à Fort-de-France. On dit ces journées à bord parce que, comme vous l'avez indiqué, il y a tellement d'animations, d'équipements sur un bateau qu'on n'a jamais le temps de tout faire.
Quand on arrive à Fort-de-France, on descend pas du navire la plupart du temps, on ne va pas visiter la ville.
On est sur un tiers, en fait, un tiers des passagers. La ville, il faut qu'elle ait quelque chose d'extraordinaire pour qu'on ait envie de descendre. On n'oublie pas, on a des clientèles qui, là, sont nord-américaines, dans des tranches d'âge quand même un peu plus élevées, et qui souffrent aussi vite de la chaleur. On est sur un bateau climatisé, on sort dehors, on prend un 30 degrés, 33 degrés, et il va falloir marcher 1 km, 2 km. Donc, il y a des aspects qui sont vite dissuasifs aussi. Mmh.
Mais est-ce qu'on fait des efforts du côté de Fort-de-France, par exemple, pour essayer d'attirer ces croisiéristes et les faire descendre du navire? Est-ce qu'il y a des politiques qui sont mises en place avec une coordination entre les différents acteurs? Ou est-ce que finalement, on laisse faire?
Alors, les politiques publiques, oui. La collectivité, oui, fait beaucoup de choses. Mais en fait, la ville, c'est une ville capitale en elle-même avec tous ses usages du quotidien qui sont plus importants que la croisière, finalement. Donc, la ville ne peut pas d'un seul coup changer de fonction et se mettre à la disposition des croisiéristes qui arrivent. D'où les interférences, en fait, et les saturations qu'on a dans la ville. Mmh. Sur des petites îles où il n'y a pas d'activité économique, comme Sainte-Lucie à côté, la ville de Castries, quand le bateau de croisière arrive, la ville, elle prend une autre tournure et d'un seul coup, elle se transforme pour être à la disposition entièrement des croisiéristes.
Après, alors, à la disposition des croisiéristes, justement, on peut décider de ne pas être à la disposition des croisiéristes. Et c'est par exemple le choix qu'a fait Saint-Barthélemy, où il n'y a pas de bateau de croisière. Il refuse les trop gros navires, en tout cas, il les refuse sur son territoire. Ça peut aussi être une stratégie payante.
Voilà, en fait, c'est-à-dire que chaque territoire doit se positionner pour voir si économiquement c'est intéressant pour lui d'avoir de la croisière. La croisière, ça fait aussi des dommages collatéraux par rapport au tourisme de séjour. Si vous êtes sur vous faites un séjour dans une île et vous avez une plage qui est relativement agréable, mais qu'un bateau de croisière arrive d'un seul coup, c'est 300, 500, 1000 personnes de plus en quelques heures. Donc le voyage va être gâché pour celui qui fait du tourisme de séjour. Donc dans le cas de Saint-Barthélemy, on reçoit des bateaux de croisière, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a...
Pas les trop gros.
Voilà, ouais, tout à fait. Ouais. C'est-à-dire qu'on s'est fixé, les politiques publiques se sont fixées un seuil, on a dit 90 000 croisiéristes par an, pas plus. Et en fait, on va viser plutôt des petits bateaux. Donc on voudrait 90 000 touristes par an, croisiéristes par an, pour 300 bateaux. Et les bateaux ne peuvent pas amarrer directement dans le port. On a refusé de faire les investissements, même s'ils étaient soutenus par des financements européens, pour le port de Gustavia. On l'a gardé en l'état, donc les paquebots sont amarrés au large et en fait ils descendent par petites navettes successives à raison de 30-50 personnes en fait, ce qui permet d'avoir une fluidité dans la circulation du flux touristique.
Ouais, c'est intéressant aussi. Oui, allez-y, poursuivez.
Voilà, et si le paquebot fait plus de 1200 personnes, donc là les politiques publiques, il y a obligation de faire une demande à la collectivité un an à l'avance pour avoir l'autorisation de venir. En fait, dans les faits, sauf raison exceptionnelle, l'autorisation est refusée. Voilà. Mais on a dû garder ce chiffre de 90 000 parce qu'il faut quand même faire vivre la totalité du commerce. Ouais. C'est-à-dire que les croisiéristes, c'est les taxis, c'est les petits commerces. Si on supprime les croisiéristes, on va avoir une partie du commerce qui va souffrir.
Ouais, on peut pas les supprimer complètement, mais c'est intéressant, Véronique Mandou, de voir qu'il y a des territoires qui précisément jouent la régulation et se différencient d'une certaine manière en refusant, en rejetant ce modèle du croisiérisme massif.
Oui, alors c'est une question de positionnement touristique et pas uniquement liée à la croisière. On retrouve la même chose en France métropolitaine avec Marseille qui s'est positionnée comme un port de croisière pour accueillir les plus gros bateaux. Et puis une ville comme Nice qui choisit d'avoir de petites unités qui vont être fréquentées par une clientèle avec un plus fort pouvoir d'achat. Donc certes, on a moins de croisiéristes, mais on va avoir un niveau de dépense qui va être plus important si on le ramène au nombre de passagers.
Merci beaucoup Olivier Dourne d'avoir été avec nous ce matin depuis la Martinique. Je vous remercie doublement parce qu'il est assez tôt du côté de la Martinique. Vous vous êtes réveillé très tôt pour nous. Je vous remercie infiniment. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'Université des Antilles, chercheur à l'Université de Laval et puis co-auteur avec Rémi Tremblay de « Entre tourisme et migration » qui était paru chez L'Harmattan. On quitte les Caraïbes, on revient du côté de l'Europe et du côté de la Méditerranée. Au début du mois, un paquebot de croisière a heurté le quai du canal du côté de Venise suite à une panne de moteur. C'est un accident donc à raviver les tensions autour des effets néfastes des paquebots sur le site, avec des milliers de personnes qui se sont rassemblées pour protester et pour demander l'interdiction de ces gros navires.
J'ai vu le bateau s'approcher rapidement vers nous. Il m'a semblé qu'il continuait et qu'il n'allait jamais s'arrêter.
Sono completamente fuori scala.
Tous sont totalement disproportionnés, mais disons que cet argument peut être effectivement subjectif. Les vrais problèmes sont la destruction de la lagune, la destruction des rives sur lesquelles reposent les rues et la destruction des fondations des palais.
Voilà, il y a du côté de l'Italie un hashtag qui est en train de se démocratiser, c'est No Grandi Navi, hashtag No Grandi Navi pour ses opposants. Les paquebots sont accusés de menacer la lagune de la ville, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, de déséquilibrer l'écosystème et d'aggraver l'érosion de ses fondations. Bonjour David Vodisek.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin, vous êtes historien et géographe. Alors, on va commencer avec une chose que je voudrais comprendre, parce que quand on regarde un peu la théorie, en théorie, ces paquebots n'ont pas le droit de circuler dans la lagune, pas le droit depuis un décret de 2012 qui avait été pris à la suite du naufrage du Costa Concordia qui s'était échoué, on s'en souvient, en 2012 face aux côtes toscanes. Pourquoi ce décret n'est pas appliqué, David Vodisek?
Effectivement, vous faites référence à un décret de l'époque du gouvernement Mario Monti, donc avant même Matteo Renzi. Et ce décret prévoyait effectivement que les navires en dessous d'un certain tonnage, au-dessus d'un certain tonnage, pardon, ne pouvaient pas entrer dans le canal, le canal principal, qui est effectivement le canal de la Giudecca. Et en réalité, ce décret n'a jamais été appliqué. Alors pourquoi ? Je pense tout simplement que les Italiens connaissent bien ces situations. Il n'y a pas de solution de repli dans l'immédiat. C'est-à-dire que deux choses l'une, soit on considère que les navires ne peuvent plus entrer dans la lagune, ce qui est une possibilité, et dans le report, dans le petit sonore que vous avez fait passer, les No Grandi Navi sont assez nombreux à considérer, soutenus par des associations environnementales importantes comme les Legambiente, et que les navires n'ont rien à faire dans la lagune, soit vous considérez que pour Venise, il y a une manne importante, et à ce moment-là, vous essayez de trouver des solutions, et on pourra en reparler, des solutions qui sont recherchées actuellement. Mais effectivement, on n'a pas appliqué ce décret, et je rappelle d'ailleurs que si ce décret avait été appliqué, puisque on parle de navires qui sont en dessous de plus de 40 000 tonnes, eh bien le MSC Opéra effectivement n'aurait jamais percuté ce quai.
David Vodisek, regardons un petit peu ce qui se passe du côté de la politique. Aujourd'hui, on a un mouvement, en l'occurrence le mouvement 5 étoiles, qui est plutôt, en théorie, toujours assez opposé justement à cette forme, en tout cas, de croisiérisme du côté de Venise, qui est, en tout cas, en théorie, officiellement, désireux de trouver des solutions alternatives. Il se trouve que le mouvement 5 étoiles fait partie de la coalition gouvernementale. Il se trouve même que le ministère des Transports est tenu par un membre du mouvement 5 étoiles, en l'occurrence Danilo Toninelli. Pourquoi est-ce que, compte tenu du fait que précisément ce mouvement-là est opposé à cette forme de croisiérisme et que, en plus, il a les clés du ministère des Transports, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à trouver une solution ?
Alors, vous dites qu'il est a priori plutôt opposé à cette forme de croisiérisme. Je dirais que le mouvement 5 étoiles a un petit peu évolué sur sa position. C'est vrai qu'avant 2016, le mouvement 5 étoiles était plutôt sur la position qui consistait à dire qu'aucun navire, quel que soit le tonnage de navire de croisière, ne devait entrer dans la lagune et qu'il fallait absolument mettre en place un port qui est un port offshore sur le Lido. Mais on a bien entendu tout à l'heure, Olivier Dehorne nous rappelait quand même quelles étaient les conditions pour que l'on puisse mettre en place une structure de ce type-là. Et donc, progressivement, je dirais que la position du mouvement 5 étoiles a évolué et effectivement est arrivé il y a un peu plus d'un an un nouveau ministre des Transports, Danilo Toninelli, qui lui a une position on va dire un peu plus réaliste en quelque sorte et qui consiste à dire nous pourrions accepter ces navires dans la lagune, mais sous certaines conditions, et surtout en mettant en place de nouveaux terminaux, et notamment des terminaux qui pourraient être un peu plus au nord, un peu plus au sud de la lagune. Et vous avez raison de dire que dans le cas de l'Italie, et c'est là qu'on voit toute l'importance de l'étude d'un cas dans sa spécificité politique, la question est très globale, Et on voit bien que c'est devenu un catalyseur, en quelque sorte. C'est devenu un sujet de discorde à l'intérieur du gouvernement. D'ailleurs, un peu sur le modèle de ce qu'on avait vu, y compris avec le tunnel Lyon-Turin, où on voit bien que sur cette question des transports, on a la position d'un maire, parce que vous n'avez pas évoqué encore, mais c'est important.
Voilà,
on a un maire qui a toute sa place et qui, lui, à des positions assez différentes.
Alors, justement, lesquelles? Parce que vous avez raison. Là, on parle du pouvoir, on parle de Rome. Parlons du pouvoir local. Le maire de Venise, c'est Luigi Brugnaro. Quelles sont ses positions, lui? Comment est-ce qu'il veut réguler cette industrie-là?
Luigi Brugnaro, lui, il a une position qui consiste à dire, il est qualifié habituellement de centre droit, mais il faut savoir qu'il a, la mairie de Venise avec le soutien d'Alliance Nationale, de Fratelli d'Italia, c'est-à-dire quand même, et de la Ligue, c'est-à-dire quand même de la droite la plus dure en Italie. Et donc il est sur des positions qui sont celles qui consistent à dire il faut simplement revenir à 2-3 ans en arrière. Lorsque l'UNESCO dit à Venise, si vous ne trouvez pas une solution désormais, vous serez classé, c'était une menace qui n'a pas été mise en application, vous serez classé dans la liste mondiale du patrimoine mondial en péril. Mmh. À partir de là, le maire Luigi Brugnaro sort un plan en disant j'ai une solution, et sa solution consiste à dire je vais mettre en place un nouveau port, et ce nouveau port sera à Porto Marghera, à Marghera. Si vous regardez une carte de la lagune, on voit bien qu'on est toujours dans la lagune, effectivement. On est toujours dans la cité métropolitaine de Venise, puisqu'il est maire de Venise, mais il est maire aussi de la métropole. Donc lui espère aussi un impact important économique. Mais surtout, il dit, voilà, ma solution, elle est là. Et Porto Marghera, on le sait, c'est un site pétrochimique qui est classé Seveso. Et donc la position aujourd'hui du maire de Venise, soutenue plus ou moins par Matteo Salvini, mais qui reste très prudent sur ces questions, hein, à la différence d'autres questions liées à la mer. Matteo Salvini dit très bien, cette solution elle est disponible. Qu'est-ce qu'on attend? Et en face de ça, on a un ministre des Transports qui est dans le même gouvernement que Matteo Salvini et qui dit moi j'ai une autre solution, ce sera tout sauf Marghera. Et donc évidemment, on a là une proposition qui ne convient à personne. Mais il faut quand même noter, je vais insister sur le fait que on a des solutions qui sont des solutions qui deviennent quand même réalistes, mais qui demanderont beaucoup de temps, beaucoup de travaux. Venise n'est pas Miami, Venise c'est pas les Bahamas. Et on voit bien que le site amène à prendre en considération toute une série d'éléments qui relèvent d'une vision globale de la question, bien évidemment.
Quand vous dites, David Vodisek, que ce plan il a été proposé par le maire. Pas seulement par le maire. En réalité, il a été proposé, c'était lors d'une réunion qui rassemblait à la fois les acteurs régionaux et donc le maire, mais aussi les institutions nationales. C'est 2017, cette réunion qu'on a du Comitatone, qui est un comité qui a été créé au début des années 80, spécifiquement pour gérer justement ces questions autour de Venise. Donc c'est pas seulement le plan de développement du maire de Venise. C'est beaucoup plus large en réalité. À l'époque, on avait trouvé un consensus politique beaucoup plus large.
Oui, on avait trouvé un consensus politique, mais aujourd'hui, lorsque les manifestants que vous voyez et les différentes associations environnementales ne peuvent plus accepter, et les usagers en réalité, parce que les Vénitiens sont 50 000, donc ils représentent une minorité quasiment dans ce débat, mais on ne peut plus accepter de voir des grands navires traverser la bouche du Lido ou même la bouche de Malamocco au plus au sud, emprunter des voies qui sont les mêmes que celles des supertankers, et ensuite, parce qu'ils sont de taille un peu plus petite, mais quand on dit de taille un peu plus petite, il s'agit du bateau qu'on a vu, hein, c'est ça la taille plus petite, en dessous de 60 000 tonnes, ensuite emprunter un canal Victor Emmanuel qui les mènera vers le Maritima, qui est finalement le terminal dans la ville, le centre. Et c'est la raison pour laquelle Danilo Toninelli se présente un peu comme le chantre d'une vision plus favorable aux associations environnementales, en disant moi je propose d'autres sites, et je mets dans la balance aussi la possibilité de sélectionner le Lido, c'est-à-dire finalement de mettre en place un port qui serait un port, vous le voyez bien, qui est évidemment de l'autre côté de la lagune, en pleine mer. Et le dernier pari que fait Danilo Toninelli est de dire, sur cette question, à partir du moment où une étude de faisabilité a été faite, Chioggia au sud ou Lido plus au nord, eh bien je le mettrai en discussion et j'en ferai un objet de référendum ou effectivement de discussion publique en ligne pour voir ce que pensent les Italiens, notamment les Vénitiens.
Vous dites on peut plus laisser la situation telle qu'elle est pour des raisons environnementales. C'est pas seulement des raisons environnementales, c'est aussi parce qu'évidemment la ville est en péril, on le sait. Et précisément précisément sur cette menace qui pèse sur Venise, il y avait un projet, un immense projet qui s'appelle le projet Nemos, qui est un système de vannes mobiles escamotables qui permet de protéger la lagune de la marée. C'est un projet qui a commencé il y a une quinzaine d'années. On en est où aujourd'hui? Est-ce qu'on peut espérer que ce projet protège enfin les villes des inondations répétées qui mettent en péril la cité?
Il est difficile d'être très optimiste sur ce projet compte tenu des évolutions récentes. On voit bien que des essais ont été réalisés. D'abord, il faut quand même rappeler que depuis le départ du projet, un certain nombre d'experts prétendent non seulement que le Moïse va empêcher les allers-retours dans la lagune et donc va faire mourir la lagune en faisant devenir un vaste marais, mais surtout qu'il n'empêchera pas au moment des eaux hautes, les altéaques, comme disent les Vénitiens, l'eau de passer ou de passer par-dessus. Donc tout cela n'est pas très encourageant. Et j'ajouterais, encore une fois, on est dans un cadre national qui est très particulier. J'ajouterais que un des organes publics qui était très puissant à Venise et qui existe depuis le début, depuis 1501, l'Office des Eaux, le Magistrato alle Acque, on l'appelle en Italie, et ce Magistrato alle Acque avait aussi pour mission de superviser ces travaux. Or, encore un héritage des gouvernements précédents, il y a quelques années, lorsque Matteo Renzi était encore aux affaires, il a été amené à dissoudre l'Office des Eaux pour des raisons de pot de vin. Et donc cet organe qui, en quelque sorte, donnait un message fort aux Vénitiens en disant « Vous aussi, localement, vous avez la possibilité de prendre en compte, de prendre en charge votre avenir », n'existe plus. Et c'est ce qui explique aussi qu'on a en interlocuteur, finalement, uniquement au niveau local un maire et au niveau national des ministres qui eux-mêmes ne s'entendent pas sur la position à suivre.
On voit que c'est une affaire qui risque de continuer. Merci beaucoup, David Vidosek. Je rappelle que vous êtes Vodisek, excusez-moi, j'ai écorché votre patronyme. Vous êtes historien et géographe. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et nous avoir éclairé sur la situation du côté de Venise. Merci beaucoup Véronique Mandou d'avoir été avec nous ce matin, nous avoir éclairé sur cette industrie de la croisière. Je rappelle que vous êtes géographe et maître de conférences à l'Université d'Angers. Un grand merci à vous.
Merci.
h 53 minutes, l'heure pour nous de retrouver le plus grand croisiériste de France Culture.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Lui, il vogue sur l'océan des idées. Bonjour Brice Couturier.
Bonjour Florian.
En 2002, paraissait dans une revue de psychologie un article qui a fait du bruit à l'époque et voilà que la science politique s'en inspire. Dites-nous tout, Brice.
Oui, il y a 17 ans, dans la revue Cognitive Science, deux psychologues créent un sigle nouveau, IOED, pour Illusion of Explanatory Depths, adapté aussitôt en français par l'expression illusion de profondeur explicative. Leonid Rosenblit et Frank Cale, ces auteurs, avaient demandé à un certain nombre de sujets « Pouvez-vous nous expliquer comment fonctionne une fermeture éclair ?» Et encore, « Sauriez-vous décrire le mécanisme d'une chasse d'eau ?» Eh bien, la grande majorité des réponses obtenues étaient positives. Quoi de plus simple qu'une fermeture éclair et qu'une chasse d'eau, n'est-ce pas ? Ces inventions nous sont tellement familières que leur fonctionnement nous paraît d'une extrême simplicité. Et pourtant, dès lors qu'il faut les analyser et les décrire en détail, eh ben, l'exercice se révèle beaucoup plus difficile. La grande majorité des personnes ayant répondu positivement à nos deux psychologues s'embrouillèrent et durent convenir que finalement, eh ben non, elles ne savaient pas exactement comment ça marchait. Ni une fermeture éclair, ni une chasse d'eau. Je vous pose pas la question, Florian. Dans un article qui vient de paraître sur le magazine politique britannique The New Statesman, l'essayiste Ian Leslie applique le concept d'illusion de profondeur explicative à la sphère politique. Pour lui, le mal qui ronge nos démocraties est moins le populisme que ce qu'il appelle le simplisme. Et il se sert d'une autre métaphore, celle des côtes anglaises. Vue d'avion, elles paraissent assez bien découpées, conformes en tout cas au dessin des cartes de géographie. Mais si vous vous en approchez, eh bien vous irez de surprise en surprise, dit-il, tant elles sont découpées, irrégulières, et vous aurez beaucoup de mal à retrouver le dessin de vos cartes. Eh bien, de manière générale, observe toujours Ian Leslie, plus on regarde les choses en détail et de près, plus on réalise qu'elles sont compliquées. Et plus on se rend compte qu'elles ne cadrent pas avec nos idées a priori. On tombe sur d'innombrables exceptions aux lois qu'on croyait connaître, à des conséquences parfaitement imprévues par nos raisonnements les mieux assurés. Mais plutôt que de le reconnaître, eh ben, avouons-le, nous avons tendance face à cette complexité à nous mentir à nous-mêmes. Car nous croyons savoir. Aussi, nous refoulons les données qui ne cadrent pas avec nos schémas de pensée et nous remplaçons l'analyse par les slogans faciles du prêt-à-penser.
Et Brice, on pourrait objecter à votre politologue qu'il n'y a pas besoin de savoir comment fonctionne une fermeture éclair ou une chasse d'eau pour les utiliser.
Oui, certes, collectivement, dit-il, nous en savons long, mais individuellement, fort peu. La réalité politique et sociale est extraordinairement complexe de nos jours, parce que le monde est devenu interdépendant, divers, et que les nouvelles technologies déjouent souvent les résultats escomptés. Mais ce que réclament les électeurs dans les démocraties, c'est une présentation simple, une mise à plat, la ligne claire, si vous voulez. Ce n'est pas nouveau, vous me direz, mais ce qu'il est peut-être, c'est l'apparition d'une espèce nouvelle de politiciens qui, eux, en rajoutent sur le simplisme et qui, de ce fait, séduisent les électeurs par leur incompétence même. En réalité, à de rares exceptions près, les politiciens n'en savent pas beaucoup plus que le commun des électeurs, prétend Ian Leslie, qui semble les connaître. Ils seraient tout aussi en peine d'expliquer le fonctionnement de nos états-providence, pour prendre cet exemple, que celui d'une fermeture éclair ou d'une chasse d'eau. Mais certains d'entre eux sont arrivés à conquérir le pouvoir en dénonçant le pouvoir des vrais experts, en se faisant gloire de leurs lacunes, parce qu'elles sont censées les rapprocher du citoyen de base. Ainsi, le Brexit, poursuit cet essayiste britannique, est une affaire effroyablement compliquée. Peu de gens peuvent se vanter d'en saisir les implications dans le détail. Mais les politiciens, qui se battent en ce moment comme des chiffonniers au Parlement britannique pour succéder au gouvernement de Theresa May, n'ont nullement pris la mesure des problèmes. D'après Leslie, parmi les actuels précédents prétendant conservateur au 10 Downing Street, aucun ne sait vraiment comment fonctionne cette Union européenne avec laquelle ils prétendent négocier un retrait plus avantageux pour leur pays. Mais le peuple britannique s'apprête à confier le pouvoir à une bande de simplificateurs incompétents. Le simplisme se décline différemment, conclut-il, selon qu'il est manié à droite ou à gauche. Vous avez un simplisme de gauche qui tâche de mettre tout. Vous avez le simplisme le simplisme de droite tâche de mettre tout ce qui échoue sur le dos des étrangers. À gauche, par contre, on a le simplisme conspirateur. Tout est de la faute d'une élite qui ne se préoccupe réellement que de ses propres intérêts. Vous me direz, et les libéraux? Eh ben, quant aux libéraux, selon Ian Leslie, ils prennent tous les autres pour des imbéciles.
Merci Brice Couturier pour cette chronique. Vous avez des problèmes de chasse d'eau, Brice?
Non, moi, ni de fermeture éclair avec ce temps-là, vous me direz, c'est pas étonnant.
Merci beaucoup Brice pour cette chronique qu'on peut retrouver évidemment sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Dans un court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Table.